France Culture, tout de suite, la série musicale, Simon Rico.
All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin.
La série musicale de l'été, les sons du mur. Simon Rico.
Ich bin ein Berliner.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous achevons aujourd'hui notre semaine consacrée à l'histoire du mur de Berlin dans les friches industrielles au début des années 90, là où les gamins de l'Est et de l'Ouest se retrouvèrent pour danser ensemble sur les ruines fumantes de la guerre froide au rythme hypnotique de la techno.
Il n'y avait plus d'Ouest ni d'Est. Il n'y avait que la musique.
Un nouvel espace immense s'ouvrait, où tu pouvais faire de la musique et organiser des soirées.
Le fait que c'était illégal allait de soi. Personne ne se posait la question.
À ce moment-là, on a pris conscience qu'un phénomène nouveau émergeait, qu'il se passait des choses incroyables. Et c'est pour ça qu'on faisait la fête.
Il n'y avait plus d'Ouest ni d'Est, il n'y avait plus que la musique. Tirée du documentaire Le Mur des Sons, cette phrase résume l'état d'esprit qui régnait à Berlin au début des années 90, juste après la chute du mur le 9 novembre 1989. Après 45 ans de conflits gelés, après 3 décennies de ciel partagé, la ville veut alors rattraper le temps perdu et la techno va servir de bande-son à la réunification. Plus question de querelles idéologiques, la jeunesse allemande entend faire table rase d'un passé sans doute un peu trop chargé. Face à cette histoire récente tourmentée, la techno berlinoise veut se tourner vers l'avenir. Les premières rêves s'organisent au moment où le capitalisme enterre le socialisme, où la société de consommation l'emporte malgré la crise. Chaque week-end, une faune disparate, cosmopolite, se retrouve dans les lieux underground, les squats et les clubs éphémères. C'est le moment où règne le do-it-yourself, pas étonnant pour une scène électronique berlinoise qui puise ses racines dans le punk et la new wave. C'est aussi le moment où les amphétamines, ecstasy, speed, MDMA, enchantent ces longues nuits de liberté retrouvées sans penser au lendemain.
Droga, viva la muerte, viva el amor y viva la suerte. Viva la droga, viva la muerte, viva el amor y viva la suerte.
Viva la droga.
impossible de comprendre l'émergence de la contre-culture techno du Berlin d'après-mur sans rembobiner un peu la bande de l'histoire, celle que nous racontons à ce micro depuis lundi. En ruine à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Berlin a bénéficié d'une attention particulière de chaque côté du mur. Les autorités de la RDA voulaient faire de Berlin-Est une vitrine du socialisme triomphant, mais l'Ouest, îlot du monde libre, fut encore plus choyé par les forces occidentales, américains, britanniques et français qui occupaient la zone. Enclave encerclée par la RDA, Berlin-Ouest est peu à peu devenu un refuge pour les milieux underground de RFA. Dans les nombreux immeubles vétustes de la ville, où les loyers étaient très bon marché, on y retrouve des artistes, des militants zanards ou anticapitalistes, des marginaux, bref, toute la faune en rupture qui constitue la base du prolétariat contre-culturel. Au début des années 80, au moment où la Neue Deutsche Welle, la nouvelle vague allemande, inonde les bacs à disques outre-Rhin, Berlin-Ouest a des airs de ghetto cosmopolite où la scène alternative brille de mille feux. Le point de ralliement, le SO 36, se trouve sur Oranienstrasse en plein Kreuzberg. C'est dans ce club mythique que firent leur classe plusieurs acteurs de la scène techno berlinoise de la décennie à venir, comme Gudrun Gut, la chanteuse du groupe féminin Malaria. Au moment où la jeunesse de Berlin-Ouest passe ses nuits blanches au SO 36, une révolution musicale est en cours à des milliers de kilomètres de là, au nord des États-Unis, sur les rives des Grands Lacs. À Détroit et à Chicago, deux jeunes noirs sont en train d'inventer la BO des dancefloors de demain en composant une musique instrumentale et répétitive sur des machines électroniques bon marché. Les pionniers de la techno de Détroit, de Belleville 3, Juan Atkins, Derrick May et Kevin Saunderson n'ont jamais caché l'influence de la vague cosmique allemande des 70s sur leur travail, celle de Tangerine Dream, Giorgio Moroder et surtout Kraftwerk. Avec sa musique expérimentale, froide et entêtante, inspirée des préceptes de Stockhausen, le quatuor robotique de Düsseldorf a posé les bases de ce qui fera le succès de la techno. En 1978, ils sortent Die Menschmaschine, le disque qui a la réputation d'avoir été le plus samplé de l'histoire de la musique. Pendant que la techno de Détroit et que la house de Chicago se mettent à envahir les pistes de danse, le Berlin alternatif commence à s'ennuyer à partir du milieu des années 80. Le No Future Punk tourne désormais un peu à vide, les acteurs de la scène underground ont pris un coup de vieux, même si certains font de la résistance et continuent de porter à bout de bras l'esprit frondeur et créatif de la ville divisée. Aux côtés de Mark Rieder ou de Blixa Bargeld, Dimitri Hegman est de cela. Arrivé à Berlin en 1978, pour échapper au service militaire, il s'est vite investi dans le milieu musical underground. Il fréquente les bars rock, le Risiko, le Café M, l'ex-pop et la fine fleur des groupes expérimentaux. Il commence par mettre sur pied la première compilation de punk est-allemand, puis devient l'un des défricheurs de la scène électronique avec son acolyte Achim Kohlberger. Avant de monter le célébrissime Club Trésor, les deux trentenaires lancent le petit label Interfish Records et ouvrent l'UFO, le premier lieu acid house de Berlin. En parallèle, Dimitri Hegemann continue d'organiser le fameux festival Berlin Atonal qu'il a créé en 1982 et qui a ressuscité en 2013 après un long break de 23 ans. L'année où le mur de Berlin s'effondrait, Atonal programmait Final Cut, un duo techno-industriel de Détroit quasi inconnu. Au platine, un certain Jeff Mills qui mettait pour la première fois les pieds en Allemagne. À la fin des années 80, il n'y a pas que l'UFO et le festival Atonal où l'on peut entendre de la techno à Berlin. Sur l'antenne de la Sender Freies Berlin, la SFB, une des radios du secteur ouest, l'animatrice Monika Dittel joue les premiers disques de techno et d'acid house dans son émission The Big Beat. Les disques, justement, sont alors compliqués à se procurer dans un Berlin isolé du reste du monde occidental. Jusqu'à l'automne 1989, il n'y avait que deux magasins qui vendaient de la house dans tout Berlin-Ouest, Pinky et Vom, et encore ce n'était pas leur spécialité et leur choix comme leur stock restait fort limité. Il a fallu attendre l'ouverture de Hardwax peu avant la chute du mur pour étancher la soif des amateurs de techno, à commencer par celle des DJ stars de l'époque, Johnson, Tanis ou Rock. Grâce à des deals conclus au fax ou par téléphone, quand la minute d'appel vers les États-Unis coûtait 4 marques, Hardwax proposait une large sélection des sorties électroniques venues de Détroit, de Chicago, d'Angleterre ou de Belgique. En cherchant un peu, vous auriez sûrement pu trouver une copie du maxi Do You Wanna Jack, signé The Sweet Boys, l'un des nombreux alias du producteur Chicago, Adonis.
Your body.
Le 1er juillet 1989, la première Love Parade rassemble environ 150 personnes à Berlin-Ouest pour protester contre le mur qui divise la ville. À l'origine de ce rassemblement illégal autour d'une camionnette équipée d'un sound system, trois activistes de la scène techno naissante, Daniele De Picciotto, les DJ Dr. Mott et Vestbam, avec une devise « Paix, joie, crêpe ». Cette petite bande d'activistes, fans d'Acid House, entendait ainsi faire la nique au militantisme sinistre. À l'été 90, après la réunification, ils étaient 2000 à défiler dans les rues de Berlin. 10 ans plus tard, ils seront 1,5 million, faisant de la Love Parade le plus gros rassemblement musical au monde après le carnaval de Rio. Le do-it-yourself des débuts a rapidement laissé place à une immense machine, sponsorisée sans compter par des multinationales, soucieuses de séduire une clientèle jeune, branchée et friquée. Pour dénoncer cette dérive, une contre-manifestation, la Fuck Parade, a vu le jour en 1997. Voilà qui n'a pas empêché Vestbam et Dr. Mott de continuer à produire l'hymne de chaque édition, après avoir été deux défricheurs de la scène électronique allemande. La Love Parade a finalement été arrêtée en 2010 après la mort de 21 participants à Duisbourg. En 1988, Vestbam sortait Disco Deutschland, l'un des tout premiers tubes de house allemande. À peine le mur de Berlin était-il tombé que les premières free parties furent organisées dans Berlin-Est. De Zossiz, le DJ Vole XDP et Johnny Stiller lancent par exemple les fameuses soirées Technoside, contraction de techno et acide, qui entendent réinventer la fête avec une scénographie psychédélique censée abolir les frontières du temps et de l'espace. Ces free parties, pour la plupart illégales, rassemblent tous les milieux underground des deux Berlins, breakdancers, hooligans, punks, squatters, artistes et expatriés fauchés. On s'amuse sans hiérarchie ni exclusion, la communauté LGBT peut aussi s'y épanouir sans crainte d'être discriminée. À la faveur de la MDMA, la drague lourdingue fait place aux câlins, aux caresses et à l'abandon au plaisir. C'est comme si, après la chute du pouvoir communiste à l'Est, il n'y avait plus de lutte des classes sur le dance floor. Les premières années d'après-mur, cette faune hétéroclite qui se retrouve chaque week-end pour s'envoyer en l'air à des airs de grandes familles foutraques qui banquettent au rythme de la contre-culture techno. Avec ses dreadlocks en bataille, son veston camouflage et ses piercings, le DJ Tanis est l'un de ceux qui électrise alors les nuits blanches berlinoises. We'll be right back. Au départ, les autorités se montrent plutôt tolérantes vis-à-vis de ce mouvement qui investit des bâtiments abandonnés pour y faire la fête. D'autant plus que l'administration se trouve alors en pleine restructuration, surtout à l'Est, où règne un grand flou après la disparition du régime socialiste. Le plus souvent, il était tout bonnement impossible de retrouver le propriétaire de ces lieux qui avaient été nationalisés au temps de la RDA. Les autorités les louaient donc avec des baux plutôt courts pour presque rien, et parfois même pour rien du tout. C'était le règne des squats, plus d'un tiers des logements étaient vides côté Est et de nombreux bâtiments furent investis par la bohème de l'Ouest en quête de nouveaux espaces.
Après la chute du mur, de nombreux clubs berlinois se sont installés à l'est de la ville, dans cette moitié de Berlin qui était encore inaccessible il y a quelques années. La ruée vers l'est, un phénomène de mode qui a trouvé son second souffle.
Ici, dans ce quartier à l'est de Berlin, vous trouverez la vraie faune underground et les clubs les plus intéressants.
L'un de ces clubs, c'est le Glitz. Il a ouvert il y a à peine 3 mois, à un jet de pierre du fameux corridor de la mort, juste derrière le mur. La nuit sera chaude et blanche. Dans quelques heures, comme tous les samedis soirs, la scène gay berlinoise viendra célébrer ici sa grand-messe hebdomadaire. Si vous allez à Berlin, autant le savoir, les nuits branchées, c'est à l'est que ça se passe et uniquement à l'est. Attention, ici tout va très vite. Dans quelques mois, le quartier aura complètement changé d'âme.
Printemps 1991, les gérants de l'UFO, le club Acid House du Berlin de la fin des 80s, ouvrent un nouveau lieu avec l'un des fondateurs des Technosides. C'est le Trésor, le club mythique de la culture techno-berlinoise qui va vite donner le la de la partie métropolisation de la capitale de l'Allemagne réunifiée. Le Trésor s'installe tout près de la Potsdamer Platz, dans un ancien grand magasin abandonné du No Man's Land du mur, avec son dance floor situé dans l'ancienne salle des coffres. Le club existe toujours, mais, gentrification oblige, il a dû se relocalisé en 2007 dans une ancienne centrale thermique en plein quartier de Mitte. Les stars de la techno de Détroit ont fait la réputation du Trésor, notamment le pionnier Juan Atkins ou le collectif de Jeff Mills Underground Resistance, première signature de son label avec Sonic Destroyer, qui a effectivement détruit un nombre incalculable de sets depuis 1991. Il n'y a pas que le trésor qui a fait vibrer les murs des friches berlinoises des 90s. Avant que le Berghain ne devienne le nouveau temple de la techno, à partir du milieu des années 2000, le Planète, l'Iverk ou le Bunker eurent aussi leurs heures de gloire. Aujourd'hui, la municipalité prend soin de ces lieux qui font désormais partie du patrimoine. Juste après la chute du mur, c'était aussi l'effervescence du côté des labels indépendants. Il y a évidemment celui du Trésor, dont nous venons de parler, mais on peut aussi évoquer MFS, fondé par Mark Reeder, le plus anglais des Berlinois. Il est arrivé de son Manchester natal à la fin des années 70 et a ensuite écrit certaines des plus belles pages de la scène underground locale, du post-punk à la trance. L'acronyme MFS, pour Masterminded for Success, reprend ironiquement celui du ministère de la Stasi.
Hi, this is DJ TARDIS direct from cyberspace. Get interface to DT64.
Genau, die Dancehall. Heute mit dem heiß versprochenen Berliner DJ Special Volume 1. Zu Gast hier im Studio ist sexy, immer up to date DJ Rocky aus dem UFO. Hi Rocky. Drei weitere lokale Szenen-Heroes Berlin. The Never ohne Mütze DJ Tanit aus dem UFO. DJ Caramba Ole Markus Lopez aus dem
Les sons de ces petits labels émergents sont diffusés dans les nouvelles émissions que programment les radios berlinoises, notamment Dancehall, animé par Maroucha sur DT64, comme le dit alors le Berlin branché, l'ancienne station de RDA dédiée à la jeunesse. De prétendus experts se sont cassés les dents à tenter d'expliquer les raisons de l'explosion de la techno dans le Berlin d'après-mur. il est en tout cas frappant de constater que le mouvement a émergé et s'est développé dans deux villes symboles de la fin de la révolution industrielle. La Motor City, incarnation de la déliquescence de l'industrie automobile américaine, et la ville du mur, donc, incarnation de la faillite du bloc socialiste. Dans Der Klang der Familie, l'ouvrage de référence sur Berlin, la techno et la chute du mur, Robert Hood, l'un des piliers de la scène électronique de Détroit, tente cette explication. J'ai eu l'impression que les Berlinois voulaient se débarrasser de leur passé quand nous, nous voulions nous débarrasser de notre passé dans un monde raciste. Un meilleur avenir où les catégorisations seraient détruites comme le mur de Berlin, voilà la tâche qui nous tenait ensemble. Associé au refus du conformisme et du mode de vie bourgeois, la contre-culture techno refuse toutefois de porter un véritable projet politique et va peu à peu perdre de son authenticité. À partir de 1992, la trance commence à s'imposer, annonçant son virage pop. Aux oreilles des pionniers underground, la techno est alors en train de perdre son âme pour devenir une simple marchandise commerciale. Les soirées Mayday, lancées fin 1991, symbolisent ce virage. Présentées comme les plus grandes raves du monde, elles deviennent vite des fêtes grand public où s'alignent les tubes du moment que les organisateurs, en hommes d'affaires avisés, s'empressent de commercialiser, sortant une compilation pour chaque édition. Sur la première, en 1992, figure le Rave Channel de la DJette Maroucha, l'égérie contre-culturelle du début des 90s, qui deviendra bientôt celle de l'entrée de l'électro dans le top 50. À partir du milieu des années 90, l'argent se met à pleuvoir sur le petit monde de la techno berlinoise. Certains squatteurs des premières heures se muent en patrons de clubs au portefeuille bien garni. Constatant le succès de ces artistes, les majors se mettent à signer les têtes de gondole du mouvement et la contre-culture électronique de l'après-mur se prend les pieds dans le tapis, cédant à la logique du profit facile. Dans la seconde moitié des 90s, la techno s'impose en effet comme une nouvelle mode. Elle investit les grands médias et le monde de la pub. Culture contestataire et ouverte à ses débuts, elle finit par édicter un nouveau conformisme, des règles et des codes apparaissent pour prescrire à ses adeptes la bonne façon d'être ou de se vêtir. On est passé de clubbeurs qui dansaient sous ecstasy où tout le monde s'aime à des clubbeurs bourrés de cocaïne qui méprisent les autres danseurs depuis leur carré VIP, juge Guillaume Ollendorf, le traducteur du livre Der Klang der Familie. Les DJ deviennent des stars que l'on paye très cher pour jouer dans les plus grands clubs du monde entier. L'allemand Sven Vatt, l'autoproclamé roi de la techno, devient l'une de ses icônes des platines. En 1992, il sortait son premier album, Accident in Paradise, un succès planétaire qui lui vaudra d'être qualifié de dieu de la machine par le Spiegel. La techno a donc fini par devenir un business très profitable à Berlin. Aujourd'hui, les clubs attirent chaque année environ 3 millions de fêtards dans la capitale allemande, et selon une étude menée par la Berlin Club Commission, un groupe d'intérêt qui œuvre au développement de la nuit berlinoise, le tourisme lié à la techno a généré près de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2018, dont plus de 200 millions rien que pour les clubs. En 2017, quand les établissements faisaient face à une pression toujours plus forte des promoteurs immobiliers et aux plaintes pour nuisances sonores, la mairie de Berlin a choisi de protéger la vie nocturne de la ville en débloquant 1 million de pour aider les bars et les clubs à se mettre en conformité avec les normes d'isolation sonore. Des Rolex, vous pouvez aussi en acheter à Dubaï, mais des clubs comme dans notre ville, vous n'en trouverez nulle part ailleurs, souligne Dimitri Hegman, le boss du Trésor, l'un des métronomes de la nuit berlinoise depuis bientôt 40 ans. Chaque week-end, une horde de jeunes EasyJet setters viennent donc se ruer vers Berlin pour 72 heures de plaisir festif dopé aux drogues de synthèse.
C'est politique. D'abord, le mur est tombé. Donc il y a eu de l'espace. Et les jeunes devaient trouver des nouveaux moyens. Et puis il y avait besoin de beaucoup d'art pour rassembler les gens. Et aujourd'hui, c'est toujours politique.
À 50 ans passés, Hélène Alien a connu toutes les évolutions de la techno berlinoise, de l'acid house à la fin des années 80, jusqu'au club d'aujourd'hui surpeuplé de touristes étrangers. Cette année, elle a justement sorti le single UFO 30 ans après ses débuts dans le légendaire club du même nom, à Kreuzberg. Victime de son succès, la techno, qui avait contribué à abolir les barrières de classe et de genre à ses débuts, a donc fini par en créer de nouvelles et la spirale ne semble pas près de s'inverser. Dans certains quartiers de Berlin, au lieu historique de la scène alternative, les loyers explosent ces dernières années, à tel point que la gentrification de la ville menace directement les artistes qui n'ont plus les moyens de vivre dans ces zones et donc, par ricochet, l'émergence de nouvelles scènes contre-culturelles. Actif jusqu'en 1997, Liverk est aujourd'hui classé et protégé comme plus ancien vestige de l'industrie électrique allemande. L'ancienne station électrique est gérée par une entreprise d'événementiel qui loue son espace aux plus offrants. Les Red Hot Chili Peppers ou Muse y ont par exemple lancé des albums. Voilà plus de 20 ans que les murs de ce bâtiment mythique des prémices de la scène électronique berlinoise n'ont pas entendu un morceau de techno. Le temps des soirées Dubmission qui ont fait émerger l'un des rares DJ superstars de Berlin, l'aussi Paul Van Dyk, appartiennent à une époque depuis longtemps révolue. Starts with a kiss, that's for sure. Depuis 1989, la scène techno de Berlin a donc beaucoup évolué. Aux portes des clubs, de solides videurs ont remplacé les vieux cadenas rouillés, les technophiles n'investissent plus des caves encrassées au plafond bas sans eau ni électricité, mais des lieux branchés courus dans le monde entier, devant lesquels il faut parfois faire la queue pendant plusieurs heures sans avoir la garantie de rentrer. Les caissons branchés à l'arraché ont aussi laissé place à certains des meilleurs systèmes son, une hausse qualitative qui a surtout entraîné la normalisation de la nuit berlinoise. Quand on sait que Dimitri Hegman, le fondateur du Trésor, homme clé des débuts dans l'immédiat après-mur, a décidé d'ouvrir un musée de la culture techno au sein même du bâtiment qui accueille déjà son club, on a tendance à penser qu'en devenant respectable, la sous-culture techno-berlinoise a bel et bien fini par perdre son âme libertaire. Heureusement, quelques acteurs underground continuent de faire perdurer les mythes fondateurs de cette scène hors des sentiers balisés. Fondé en 2011, le petit label Aufnahme Wieder Gabe produit des artistes pour la plupart berlinois qui refusent toute concession commerciale et réhabilitent la techno industrielle sombre et sèche. Attaché à ses influences pré-année 2000, AW sort principalement des disques en édition limitée qui s'arrachent en un clin d'œil. We'll be right back. C'était Les Sons du Mur, une émission proposée par Simon Rico et réalisée par Alexandre Fougeron. À la technique aujourd'hui, il y avait Inès De Bruyne. Vous retrouverez les podcasts de la série, toutes les références des morceaux que nous avons diffusés, une playlist et une série de recommandations sur franceculture.fr. Merci à Hugo Jacquemin, notre précieux stagiaire, à Romain Couturier et François Merlin de la discothèque de Radio France, à Annie Lozana et Clary Monac de l'IDA, ainsi qu'à Clément Perruche pour la mise en forme de notre page internet. La semaine prochaine, Matteo Caranta fera tomber les murs entre nature et culture avec sa série musicale Nature, mais qu'est-ce que tu nous chantes ?
L'esprit d'ouverture.